De retour après la pause, nous avons le plaisir de recevoir, comme c'est notre habitude chaque semaine, Mme Esther Hardy. Bonjour.
Bonjour, François.
Avec Esther, nous faisons le tour du monde, hein, sans quitter notre ordi, sans quitter notre micro. Et ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'accessibilité un peu partout dans le monde. Parfois, on apprend des choses étonnantes, d'autres qui peuvent nous être utiles. Et dans ce sens-là, on va commencer en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni.
Voilà. En fait, oui, c'est une grande nouvelle, un nouvel espoir pour les personnes atteintes de paralysie grâce à un dispositif bio-hybride innovant. Donc, des chercheurs de l'Université de Cambridge, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas?
Non, non. Harvard est près de Boston, mais en Grande-Bretagne, c'est Oxford et Cambridge.
Cambridge, en oui. Angleterre. Donc, on a mis au point une nouvelle technique qui permet de reconnecter des neurones sectionnés en combinant des cellules souches avec des circuits électroniques souples pour créer un appareil bio-hybride.
Oh là là, là on parle vraiment, c'est de la science-fiction. Là, on parle
ouais, on est rendu.
L'homme de 6 millions, puis après ça, Robocop.
Exactement, c'est fou, hein, mais c'est ça. Donc, ça pourrait aider aussi bien des personnes paralysées que celles qui ont subi une amputation ou qui portent une prothèse. Donc, ça a été déjà publié dans une revue Science Advance, là, ces résultats de recherche-là. En fait, c'est pour redonner fonction à un membre paralysé. Donc, il y a eu plusieurs techniques, plusieurs recherches qui ont été faites, mais on se heurtait continuellement à la même chose, c'est que dès qu'on fusionnait le nouvel appareil qu'on avait fabriqué au nerf endommagé, eh bien, le corps construisait des tissus cicatriciels.
Oui, c'est ça, pour un peu autour, comme pour habiller l'objet étranger.
Ce qui bloque le signal électrique. Donc, on a réussi enfin à dépasser cet obstacle-là en utilisant des cellules souches.
Des cellules souches pluripotentes induites,
et voilà.
Rien de moins. On va éviter Philippe Ducharme, mais on va y arriver. Les cellules souches, on se rappelle, ce sont des cellules qui apparaissent au tout début de la vie de l'embryon. Ce sont des cellules qui ont la capacité de se spécialiser et éventuellement de devenir soit des cellules nerveuses, soit des cellules de tel ou tel organe, ainsi de suite. Alors, ce sont des cellules qui ont la capacité de devenir le type de cellules qui, dans ce cas-ci, seraient des cellules nerveuses.
Voilà. Donc, c'est un grand apport. Là, on est vraiment rendu. C'est sûr qu'à ce moment-ci, c'est encore sur des tests sur des souris. Hein,
on a parlé d'elles plus tôt ce matin. Les souris, les lapins, oui. On a fait quelques blagues, malheureusement, à leur sujet. Mais c'est parce qu'on les apprécie beaucoup. Mais ça donne espoir qu'un jour, les humains, à notre tour, on pourrait bénéficier de cette technologie-là.
Exactement.
Ah, mais c'est magnifique. Parlant techno, hein, on va passer de la Grande-Bretagne à la Bretagne.
Oui, en France.
Faire du voilier.
Hein, oui.
Voilà, tonnerre de Brest.
En fait, les personnes qui vivent avec une déficience visuelle peuvent naviguer avec le logiciel SARA. Donc, SARA, c'est pour Sail and Guide Autoguide. Donc, le logiciel en question, c'est un nouvel outil qui permet aux personnes vivant avec une déficience visuelle de naviguer accompagnées d'un skipper, par contre. Là. C'est vraiment, il faut quand même avoir une autre personne, mais ils sont capables de le faire. Donc, c'est auditif, ça leur donne des indications de navigation qui sont essentielles. Donc, ça donne la possibilité de naviguer on veut.
C'est vraiment fabuleux. Et quand on est en Bretagne, hein, naviguer, la mer, tout ça, ça fait partie de notre, notre vie. Alors, le principe consiste à traduire de manière orale des données diverses intégrées dans le logiciel. Une aide que Didier Jean-Alexis, le président du club Handivoile Brest, parce qu'il y a déjà l'Handivoile, ça existe, et à Brest, c'est sûr que le club doit être assez actif, a déjà eu l'occasion d'expérimenter dans des conditions réelles lors d'une transmanche. Alors, quand même, traverser la Manche,
oui, c'est quelque chose.
C'est pas une mer qui est toujours calme, ça. Hein, une épreuve organisée par le Yacht Club des Abers que Didier Jean-Alexis a disputé cette épreuve et a pu avoir donc un voilier qui a été manœuvré grâce à ce logiciel SARA. Qui s'appelle SARA.
Ouais.
Là, je veux juste dire que SARA, je trouve ça rigolo que ce soit l'acronyme de Sail and Guide avec un G autoguide.
Oui,
parce que je ne vois pas le R. Non. Mais ça, peut-être que c'est moi qui suis un peu pointilleux. Voilà.
Ou profane bon. de l'utilisation.
Ça pourrait s'appeler Saga, mais pourquoi Sarah? Enfin,
ouais, peut-être que Saga, ça pourrait provoquer certains
doutes peut-être,
sur
peut-être
le logiciel.
Chez les marins scandinaves, il pourrait y avoir d'autres idées qui apparaissent.
C'est intéressant de savoir qu'il y a déjà 200 personnes qui ont utilisé ce logiciel-là.
D'accord. Donc, il est éprouvé.
Et voilà.
Ah, mais c'est fort. En Belgique.
En Belgique, des enseignants aident des proches ou des aidants proches ou des chefs scouts pourront désormais effectuer des actes infirmiers. Donc, d'après ce que je comprends de cette nouvelle, c'est qu'en Belgique, on n'avait pas le droit de le faire.
Ben donc, peut-être que ça se faisait, mais c'était, c'était en cachette, là.
En cachette, en dessous de la couverte, enfin.
Oui, mais ben, c'est ça. On peut, donc, c'est parce qu'il y a souvent des gestes médicaux
minimum,
que des enseignants ou des proches aidants. Les chefs scouts, ça, je trouve ça curieux comme inclusion, mais c'est peut-être, ça se comprend peut-être mieux dans un contexte en Belgique. Alors, ça permet en fait, que le gouvernement permet...
Oui,
donc,
maintenant.
Que les gens puissent poser certains gestes médicaux auprès de leur entourage qui en a besoin.
Voilà. C'est une avancée importante pour tous les patients qui nécessitent des soins réguliers. Donc, désormais, plus besoin de passer systématiquement par un infirmier. Les proches du patient pourront eux-mêmes effectuer certains soins et administrer certains traitements.
Alors, on peut penser, par exemple, à un enfant diabétique. Pour une piqûre d'insuline, replacer une sonde gastrique ou encore administrer de l'oxygène à une personne souffrant d'un cancer. Mais c'est pas comme quoi on lève la main puis on a le droit de le faire. Il y a quand même
une formation
comme aidant qualifié. Il faut avoir, je dirais, obtenu un certificat ou
une
peut-être une reconnaissance. Oui.
C'est ça. Donc, pour être reconnu comme aidant qualifié, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment ça. Habilité à réaliser certains actes infirmiers. Donc, il faudra néanmoins répondre à certains critères.
Oui, bien, c'est ça. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait des questions que toujours une autorisation d'une infirmière, d'un infirmier, d'un médecin, d'une médecin, ces professionnels de la santé devront déterminer ce que l'aidant qualifié peut faire et combien de temps. Il y a peut-être des gens qui auront beaucoup de bonne volonté, mais qui ne seront peut-être pas capables de poser le geste de façon sécuritaire. Alors, le statut d'aidant qualifié est attribué pour le suivi d'un patient sur une période donnée.
Oui.
D'accord. Mais ça va être quand même... Ça permet peut-être justement d'officialiser quelque chose qui avait... et d'encadrer, pour plus de prudence, quelque chose qui existait déjà de façon plus ou moins formelle, là, mais peut-être un peu dangereuse dans certains cas.
Tout à fait. C'est sûr qu'il y a un peu de controverse. Certains infirmiers, infirmières, dont le président de la Fédération nationale des infirmières de Belgique trouve que c'est un acte qui est pris isolément, a souvent l'air simple, hein?
Oui.
Mais il faut toujours réfléchir à toutes ces implications dans une vue globale. Comme vous dites, ça pourrait être dangereux, donc la qualification est un must, comme on dit.
Exact. Et j'en viens encore au fait que les gens qui se qualifient peuvent être des enseignants, des aidants proches ou des chefs scouts.
Ouais.
Mais j'ai pas lu plus loin. Il n'y a pas été question de chef scout par
on
la suite.
On n'en parle pas plus précisément, effectivement.
Ah, ben là, je m'excuse auprès du mouvement scoutisme belge. En Suisse, on a des problèmes de transport.
En fait, c'est que depuis, je pense que c'est 2002, voilà, la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les personnes handicapées, ça s'appelle le L&AND, dispose que les transports publics doivent être accessibles au plus tard à la fin 2023, donc dans quelques mois, et donc en principe être utilisables de manière autonome pour toutes les personnes handicapées. Donc, ce qu'on nous souligne, c'est que c'est loin d'être fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est définitif que ce ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de...
C'était comme une loi pleine de bonne volonté, vertueuse,
oui.
Comme on en voit souvent, là, qui sont votées à grand renfort de pompe,
ouais.
et de relations publiques. Mais après ça, ben, il faut mettre l'épaule à la roue. En anglais, on dirait « walk the talk ». Il faut que les choses se réalisent. Et donc, les objectifs, l'atteinte de transports accessibles en Suisse, il y a un grave retard.
Oui, voilà. C'est que les bus et les voitures ferroviaires, ainsi que la navigation à passagers concessionnaires, on appelle ça comme ça là-bas, seront largement conformes à la L&D d'ici la fin 2023, mais pas tous. En fait, il y a environ un tiers des arrêts de bus qui sera conforme aux prescriptions, mais le tiers, c'est pas le total.
Le tiers, c'est pas les trois tiers.
Pas du tout, là.
Non, c'est ça,
donc,
exact.
Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Donc, on espère pour toutes les personnes en situation de handicap en Suisse là, que ce retard soit rattrapé ou qu'au moins il y ait un mea culpa, hein, puis
oui.
Une volonté de réaliser tout cela dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas 2023, le plus rapidement possible.
Oui, avec les budgets nécessaires pour y arriver et naturellement, les compétences, parce que malheureusement,
ah, oui,
qu'eux
oui,
aussi
on fait
ont
pas
ce
ça
problème.
Comme n'importe comment. Puis, ouais. Et qu'il y ait aussi une écoute en amont, là, parce que là aussi, parfois, dans des situations comme celle-là, l'écoute en amont est déficiente et puis on se retrouve avec des solutions qui, en réalité, ne sont pas tout à fait adaptées.
Voilà.
Ah là là! Parlant d'adaptation, du côté bonne nouvelle, et puis d'ailleurs dans une émission prochainement, nous allons parler de handi-tourisme. Et aujourd'hui, quand même, les tours de la cathédrale de Reims
sont
maintenant accessibles aux personnes qui ont une déficience visuelle.
Oui, c'est vraiment très intéressant. En fait, si on parle du cri du faucon Cressel, le bruit du carillon, les rafales de vent qui s'engouffrent dans les cathédrales de Tours de Reims vont maintenant être accessibles à tous ceux qui vont visiter. Donc, si on a une déficience visuelle, si on a ça, ben c'est possible de faire c'est une première, en fait, à Reims. Ça vient juste de commencer.
Oui, c'est le 29 mars, là.
C'est
la semaine dernière.
C'était mercredi dernier qu'on a fait une première visite programmée. Donc, c'est l'occasion pour l'association partenaire de dévoiler le lancement de son application qui s'appelle L'œil sonore, dédiée aux personnes malvoyantes. Donc, c'est fabuleux, là. Cette opération est aussi l'occasion de mettre l'accent sur le lancement dimanche le 2 avril, donc c'était hier, d'une nouvelle application dédiée aux personnes vivant avec un déficit visuel, porté depuis quelques années par le regard au bout des doigts, donc ça s'appelle comme ça.
Ah, c'est joli!
C'est un projet qui voit enfin le jour grâce à un code QR installé sur la porte de la cathédrale. Donc, on peut tout simplement accéder gratuitement à ce parcours en audio-description baptisé « L'œil sonore de la cathédrale Notre-Dame de Reims ».
Une maquette tactile en braille, hein, accessible, et 18 pastilles sonores. Et ce qui est bien aussi, c'est que les 250 marches qu'il faut gravir pour se rendre au sommet de la tour ou d'une des tours de la cathédrale de Reims, ben, elles vont être accessibles. Et pour, je l'avoue, avoir souvent arpenté, j'ai pas le vertige pour ces trucs-là. Et chaque fois, je vois une tour, que ce soit le Duomo à Florence ou la cathédrale Saint-Paul à Londres, j'ai tendance, chaque fois que je sais qu'il y a un truc qui est vraiment haut et ancien, je veux aller en haut.
Tu veux
d'accord.
aller voir.
Bon, oui,
oui,
c'est ça. Au moins avoir l'impression là, d'être au-dessus de la ville. Et je peux vous dire que d'habitude, l'escalier pour s'y rendre, là, c'est pas évident parce que c'est étroit, c'est médiéval. Alors, les marches sont usées, elles penchent dans le mauvais sens, c'est étroit. Il y a comme une petite rampe en métal qu'on cherche désespérément. Et puis, évidemment, il y a tout un autobus de touristes qui viennent de finir leur visite et qui redescendent dans l'autre sens.
Voilà.
Alors, d'être capable de monter 250 marches dans une tour médiévale en toute sécurité, là, j'apprécie l'effort qui a été déployé à Reims. Bravo.
Bravo. D'ailleurs, il y a une dame qui s'appelle Aurore Soyer qui, pour elle, les résultats sont très enthousiasmants. Elle dit qu'elle voit flou, puis que c'est un problème de distance et de relief, son problème visuel, mais qu'elle arrivait à ressentir le volume et l'ambiance. Elle dit que le guide a fait toucher les poutres et qu'elle est arrivée à ressentir le volume. Ouais, voilà, je me répète.
L'espace, oui, tout à fait, parce que vous savez que les personnes handicapées visuelles sont... C'est un sens qui existe chez chacun, mais quand on est attentif à la pression de l'air, on peut mieux apprécier la dimension des pièces ou l'étroitesse des corridors, ainsi de suite.
C'est intéressant.
Voilà. Faites un cours de mobilité, orientation avec votre canne blanche, Mme Hardy, vous verrez.
Oui, on va essayer
c'est
ça.
Étonnant. On parle de tourisme accessible et là, c'est l'Allemagne qui nous envoie, nous appelle, si je peux dire.
Oui, en fait, l'Allemagne est une des destinations les plus accessibles d'Europe pour les personnes vivant avec un handicap. Personnellement, je n'étais pas du tout au courant, je trouve ça fabuleux. Donc, on sait que l'Allemagne est connue pour son riche patrimoine culturel, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures de classe mondiale. Puis toutefois, personne ne savait, ou en tout cas peu de gens pouvaient savoir, que l'Allemagne est aussi l'une des destinations les plus accessibles d'Europe pour les personnes avec un handicap. Donc, c'est l'Office national allemand du tourisme qui nous invite.
Oui, mais on peut imaginer qu'ils ont peut-être... ils prêchent pour leur paroisse, mais c'est tant mieux quand même de savoir que l'Allemagne a pris des mesures importantes pour garantir que le séjour sera confortable et agréable à tous les visiteurs. Et ça, en mettant l'emphase sur l'accessibilité et l'inclusion.
Voilà, donc il y a des rampes d'accès pour les fauteuils roulants et des audioguides, de l'interprétation dans le langage des signes aux hébergements accessibles. S'assurer que chaque individu puisse découvrir la beauté de notre pays est pour nous un engagement, disait Anja Brock-Jeanne, si j'espère dire la prononciation comme il faut là, directrice de l'ONAT, cet organisme dont on vient de parler, qui est au Canada.
Donc, ben, bravo. Et pour avoir visité l'Allemagne à quelques reprises, je dois dire que oui, c'est un pays extraordinaire et d'être capable de le visiter d'une manière accessible et tout, là, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Voilà, exact. En parlant de déplacement, on se retrouve après la pause. De retour au pays, Esther. Et il est vrai que nous nous sommes... manquer de nos rendez-vous.
Oui, hein? Voilà.
On a fait faux bond, voilà, donc ça fait déjà 2 semaines. Mais il est important de dire que dans la deuxième quinzaine de mars, un nouveau rapport déposé par Karen Hogan.
Oui, qui indique en fait que Via Rail et l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, l'ACSTA, ont apporté des améliorations à l'accessibilité au cours des dernières années, mais de sérieuses lacunes subsistent toujours. Donc, le 2/3 des handicapés ont affronté des obstacles dans les trains et les avions.
Et Mme Hogan, rappelons-le, c'est la vérificatrice générale. Là.
Voilà.
Alors, il faut croire que lorsqu'elle pointe du doigt un organisme de juridiction fédérale, il devrait y avoir un peu de redressement de la situation.
Oui. En fait, elle souligne pour les années 2019 et 2020. J'ai l'impression que l'information se limitait là.
Oui, elle est au compte-gouttes.
Oui, voilà. Mais néanmoins, ils ont fait une consultation auprès des voyageurs concernés et des lacunes dans l'application des règles par les agences responsables sont encore là, en fait, estime la vérificatrice générale.
Ce qui est vraiment navrant, c'est que la vérificatrice générale note par ailleurs dans son rapport que les sites Internet pour la planification et la réservation de voyages, là, que ce soit celui de VIA ou des lignes des compagnies aériennes, n'étaient pas entièrement accessibles. Hein? Alors, si c'est déjà difficile de mettre le pied dans le train, imaginez-vous si on n'a pas encore de billet pour y accéder.
Ouais, c'est
voilà. Alors ça, c'est à suivre. C'est un gros truc, hein, faire avancer un dossier comme celui-là auprès d'organismes ou de sociétés énormes. Là.
Oui, d'ailleurs, l'objectif d'accessibilité, c'est pour 2040, d'ici 2040.
Oui. Bon, ben...
Ils ont le temps,
on
espère qu'ils vont aller plus rapidement, là, que les choses vont enfin bouger.
Parlant d'inclusion, là, une belle expérience. Là, on parle de choses énormes là, comme le réseau ferroviaire ou le transport aérien, mais il y a des belles petites choses qui se passent sur le terrain aussi, à Repentigny.
À Repentigny, des élèves du Croc Touski relèvent le défi de la table des chefs. En fait, le Croc Touski, comme on sait, Touski veut dire qu'on ramasse tout ce qui reste dans le frigo. Voilà. En fait, ils préparent des mets et les redonne aux étudiants de l'école. Mais il faut savoir que c'est des élèves en déficience intellectuelle du centre La Croisée, avec un sourire aux lèvres, le cœur à la main, et le groupe d'enseignants, naturellement, qui participent à cette initiative de la Tablée des chefs, les cuisines solidaires édition relève pour une 4e année.
Et c'est un projet qui rassemble, parce qu'on parle de la table des chefs, là, 700 participants au Québec,
c'est
majoritairement des classes en cuisine ou en hôtellerie, qui donnent de leur temps et de leur qualifications et de leurs habiletés pour, avec Cuisine solidaire, être capable de préparer des plats pour des personnes dans leur communauté qui peuvent avoir des difficultés socio-économiques, itinérance, ainsi de suite. Alors, non seulement ces plats vont servir, mais parce qu'on parle de 1000 repas destinés à des gens dans le besoin de la communauté de Repentigny. Et donc, c'est Mme Derry et sa classe d'élèves depuis 4 ans participent à cette activité-là. Alors, on peut imaginer combien de sourires à la fois au-dessus du chaudron et au-dessus de l'assiette, hein, une fois servi, tout ça a pu créer. Alors, on leur souhaite longue vie.
Ce qu'ils veulent, en fait, c'est donner au suivant. Puis franchement, c'est un bel apport. Hein? On peut le saluer.
Parlant de pauvreté et d'handicap, il y a une dîner-causerie qui aura lieu le 12 avril. Le 12 avril, c'est mercredi. La semaine prochaine, le mouvement Handicap sans pauvreté va organiser effectivement un dîner gratuit de midi à 13 heures à l'hôtel Alt. Ça, c'est au 1200 avenue Germain-des-Prés.
À
Québec. Voilà, merci, vous avez bien fait de le dire. Et ça va être un moment pour avoir une discussion qui va porter sur la mobilisation des organisations et des alliés pour faire avancer le projet de loi C-22, ce projet qui doit se tendre pour la création d'une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. On sait que le projet a été déposé, a passé l'étape de la Chambre des communes. Dans le dernier budget fédéral, il y a d'ailleurs, je pense, 25 millions de dollars qui ont été mis de côté pour financer la création de la structure administrative de cette prestation. Donc, on commence à être proche du but. Et ce dîner-causerie va permettre aux gens de la communauté d'exprimer leurs besoins. Parce que de créer une prestation, c'est une chose, mais il est important de demander de façon précise un peu l'encadrement et les paramètres qu'on veut qu'ils balisent cette mesure du gouvernement fédéral. Parce que, laissés à eux-mêmes, parfois, le législateur peut faire des erreurs administratives qui sont par la suite difficiles à corriger.
Tout à fait. Puis ces gens veulent... En fait, on veut faire sortir les personnes en situation d'handicap et de pauvreté.
Oui, hein? Le but est là. Pour créer une consultation en amont, comme on en a déjà parlé.
Voilà.
Voilà. INCA, ils font plein de choses pour les jeunes.
Ah oui, vraiment, c'est très innovant. En fait, premièrement, il y a un concours de création littéraire en braille.
Oh!
Donc, qui vient de commencer dès le 1er avril et qui se terminera le 31 mai. On peut le faire à distance, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un programme pour les enfants et les jeunes. C'est un appel aux écrivains en herbe, en braille.
Voilà. Donc on peut soumettre une courte nouvelle, un essai ou un poème sur le sujet de notre choix, français ou en anglais, d'ici le 31 mai. Les inscriptions doivent également être accompagnées d'un formulaire, parce que là, il faut quand même démontrer qu'on se qualifie. Là. On peut comprendre qu'il faut être jeune. Il faut avoir un handicap visuel. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez communiquer avec Karen Brophy cnib.ca. Parlant de jeux, une trousse de Lego.
Oui,
Braille.
On va donner des trousses de Lego Braille pour intervenants et les institutions du 17 avril au 26 juin. Pardon. Donc, du mois d'avril jusqu'au mois de juin, la Fondation INCA offrira des trousses de Lego Braille gratuites en français et en anglais. Bon. En fait, c'est réservé aux institutions, aux organismes et aux intervenants travaillant avec les personnes vivant avec la perte d'une vision, naturellement. Donc, on doit encore une fois communiquer avec M. David Trudel-Bergamo.
Au 514-934-4622, poste 245, pour avoir sa trousse de Lego Braille. Les jeunes peuvent vivre certaines angoisses à l'adolescence, surtout quand dans un contexte d'handicap visuel et toutes les étapes sociales et la vie parfois compliquée qui est celle d'être un adolescent. Il va y avoir un groupe de discussion qui s'appelle le groupe « Comment ça va? »
Oui, en fait, ce seront des rencontres, encore une fois, à distance pour les 13-17 ans, du 18 avril au 23 mai, soit les mardis soirs de 18h30 à 20h, sur la plateforme vidéoconférence Zoom, où est-ce qu'on va justement pouvoir discuter En fait, ça donne la chance de rencontrer d'autres personnes de votre âge qui vivent des situations similaires et qui désirent partager, apprendre et se construire une vie qui leur ressemble.
Voilà, donc, alors ça, c'est gens... tous les mardis soirs. Hein?
Voilà.
Et on a jusqu'au 14 avril pour s'y inscrire. Un peu plus dans le même sens, il y a un groupe de soutien pour les jeunes adultes de 18 à 29 ans
qui
débute le 19 avril.
Jusqu'au 24 mai, naturellement, c'est encore à distance. C'est le même type de soutien. On n'a qu'à communiquer avec David Trudel-Bergamo à nouveau pour pouvoir s'inscrire. Et c'est lui, en fait, qui fera l'animation du 19 avril jusqu'au 24 mai, les mercredis soirs de 18h30 à 20h. Donc, bon. C'est pour les 18 à 29 ans.
Bien, ça, c'est important parce que souvent, surtout au moment d'un diagnostic de perte de vision, là, c'est... On est submergé par une vague d'angoisse. Ben Esther, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Tessier derrière, dans son aquarium. Voilà, ça ressemble à un aquarium. Mais il ne tourne pas en rond, croyez-moi. Et Claire Guérin, notre recherchiste qui prépare tout ça chaque semaine. François Beauregard qui vous dit à dans deux semaines. Ah, encore deux semaines. Lundi de Pâques. On se reparle le 17.